des enfants que dans son métier elle pouvait pas avoir, vu qu'il lui manquait le nécessaire. Elle portait une perruque blonde et des seins qui sont très recherchés chez les femmes, et qu'elle nourrissait tous les jours avec des hormones. Elle se tortillait en marchant sur des hauts talons, en faisant des gestes pédés pour ameuter les clients. Mais c'était vraiment une personne pas comme tout le monde, et on se sentait en confiance. Je comprenais pas pourquoi les gens sont toujours classés par cul et qu'on en fait de l'importance, alors que ça peut pas vous faire de mal. Je lui faisais un peu la cour, car on avait vachement besoin d'elle. Elle nous refilait de l'argent et nous faisait la popote, goûtant la sauce avec des petits gestes et des mines de plaisir, avec ses boucles d'oreilles qui se balançaient et en se dandinant sur ses hauts talons. Elle disait que quand elle était jeune au Sénégal, elle avait battu Kit Covella en 3 reprises, mais qu'elle avait toujours été malheureuse comme homme. Je lui disais « Madame Lola, vous êtes comme rien et personne. » Et ça lui faisait plaisir. Elle me répondait « Oui, mon petit Momo, je suis une créature de rêve. » Et c'était vrai. « Tu verras, mon petit Momo, quand tu seras grand. Il y a des marques extérieures de respect qui ne veulent rien dire, comme les couilles, qui sont un accident de la nature. » Madame Rosa était assise dans son fauteuil et la priait de faire attention. J'étais encore un enfant. Non, vraiment, elle était sympa, car elle était complètement à l'envers et n'était pas méchante. Lorsqu'elle se préparait à sortir le soir avec sa perruque blonde, ses hauts talons et ses boucles d'oreilles, et son beau visage noir avec des traces de boxeur, le pull blanc qui était bon pour les seins, une écharpe rose autour du cou à cause de la pomme d'Adam qui était très mal vue chez les travestites, sa jupe fendue sur le côté et des jarretières, c'était vraiment pas vrai, quoi. Parfois, elle disparaissait un jour ou deux à Saint-Lazare et elle revenait épuisée avec son maquillage n'importe comment et elle se couchait et prenait un somnifère parce que c'est pas vrai qu'on finit par s'habituer à tout. Une fois, la police est venue chez elle pour chercher de la drogue, mais c'était injuste. Des copines qui étaient jalouses l'avaient calomniée. Je vous parle ici du temps quand Madame Rosa pouvait parler et avait toute sa tête, sauf parfois quand elle s'interrompait au milieu et restait à regarder la bouche ouverte tout droit devant elle, avec l'air de ne pas savoir qui elle était, où elle était et ce qu'elle faisait là. C'est ce que le docteur Katz appelait l'état d'habitude. Chez elle, c'était beaucoup plus fort que chez tout le monde, et ça la reprenait régulièrement. Mais elle faisait encore très bien sa carpe à la juive. Madame Rosa avait maintenant des absences de plus en plus prolongées et elle passait parfois des heures entières sans rien sentir. Je m'asseyais sur le tabouret à côté d'elle, je lui prenais la main et j'attendais son retour. Madame Lola nous aidait de son mieux. Elle revenait du bois de Boulogne complètement crevée après les efforts qu'elle avait faits dans sa spécialité et dormait parfois jusqu'à 5 heures de l'après-midi. Le soir, elle montait chez nous pour nous donner un coup de main. On avait encore de temps en temps des pensionnaires, mais pas assez pour vivre, et Madame Lola disait que le métier de pute se perdait à cause de la concurrence gratuite. Les putes qui sont pour rien ne sont pas persécutées par la police, qui s'attaquent seulement à celles qui valent quelque chose. On a eu un cas de chantage quand un proxénète, qui était un vulgaire macro, a menacé de dénoncer un enfant de pute à l'assistance, avec déchéance paternelle pour prostitution si elle refusait d'aller à Dakar. Et on a gardé le môme pendant 10 jours. Jules, il s'appelait. Et après, ça s'est arrangé parce que M. Nda Amédée s'en est occupé. Madame Lola faisait le ménage et aidait Madame Rosa à se tenir propre. Je vais pas lui jeter des fleurs, mais j'ai jamais vu un Sénégalais qui aurait fait une meilleure mère de famille que Madame Lola. C'est vraiment dommage que la nature s'y ait opposée. Il a été l'objet d'une injustice, et il y avait là des mômes heureux qui se perdaient. Elle avait même pas le droit d'en adopter car les travestites sont trop différentes et ça, on vous le pardonne jamais. Madame Lola en avait parfois gros sur la patate. Je peux vous dire que tout l'immeuble a bien réagi à la nouvelle de la mort de Madame Rosa qui allait se produire au moment opportun quand tous ses organes allaient conjuguer leurs efforts dans ce sens. Il y avait les quatre frères Zaoum qui étaient des ménageurs et les hommes les plus forts du quartier pour les pianos et les armoires. Et je les regardais toujours avec admiration parce que j'aurais aimé être quatre moi aussi. Ils sont venus nous dire qu'on pouvait compter sur eux pour descendre et remonter Madame Rosa chaque fois qu'elle aura envie de faire quelques pas dehors. Le dimanche, qui est un jour où personne ne déménage, ils ont pris Madame Rosa, ils l'ont descendue comme un piano, ils l'ont installée dans leur voiture et on est allé sur la Marne pour lui faire respirer le bon air. Elle avait toute sa tête ce jour-là. Et elle a même commencé à faire des projets d'avenir car elle ne voulait pas être enterrée religieusement. J'ai d'abord cru que cette juive avait peur de Dieu et elle espérait qu'en se faisant enterrer sans religion, elle allait y échapper. C'était pas du tout ça. Elle n'avait pas peur de Dieu. Mais elle disait que c'était maintenant trop tard. Ce qui est fait, et il n'avait plus à venir lui demander pardon. Je crois que Madame Rosa, quand elle avait toute sa tête, voulait mourir pour de bon et pas du tout comme s'il y avait encore du chemin à faire après. En revenant, les frères Zaoum lui ont fait faire un tour au hall. Rue Saint-Denis, rue de Fourcy, rue Blondel, rue de la Truanderie, et elle a été émue. Surtout quand elle a vu rue de Provence le petit hôtel quand elle était jeune et qu'elle pouvait faire les escaliers 40 fois par jour. Elle nous a dit que ça lui faisait plaisir de revoir les trottoirs et les coins où elle s'était défendue. Elle sentait qu'elle avait bien rempli son contrat. Elle souriait et je voyais que ça lui avait remonté le moral. Elle s'est mise à parler du bon vieux temps. Elle disait que c'était l'époque la plus heureuse de sa vie. Quand elle s'était arrêtée à 50 ans passés, elle avait encore des clients réguliers, mais elle trouvait qu'à son âge, c'était plus esthétique. Et c'est comme ça qu'elle avait pris la décision de se reconvertir. On s'est arrêté rue Frochot pour boire un verre, et Madame Rosa a mangé un gâteau. Après, on est rentré à la maison, et les frères Zaoum l'ont portée au 6e étage, comme une fleur. Et elle était tellement enchantée de cette promenade qu'elle semblait avoir rajeuni de quelques mois. À la maison, il y avait Moïse qui était venu nous voir, assis devant la porte. Je lui ai dit salut et je l'ai laissé avec Madame Rosa qui était en forme. Je suis descendu au café en bas pour voir un copain qui m'avait promis un blouson en cuir qui venait d'un vrai stock américain et pas de la frime. Mais il n'était pas là. Je suis resté un moment avec Monsieur Hamil qui était en bonne santé. Il était assis au-dessus de sa tasse à café vide et il souriait tranquillement au mur en face. Monsieur Hamil, ça va ?
Bonjour mon petit Victor. Je suis content de t'entendre.
Monsieur Hamil, je m'appelle pas Victor, je m'appelle Mohamed. Victor, c'est l'autre ami que vous avez.
Mais bien sûr, mon petit Mohamed. Je te demande pardon.
Oh, c'est rien, rien du tout. Un nom envoie un autre, ça fait rien. Comment ça va depuis hier ? Il parut préoccupé. Je voyais qu'il faisait un gros effort pour se rappeler. Mais tous ces jours étaient exactement pareils depuis qu'il ne passait plus sa vie à vendre des tapis du matin au soir. Alors ça faisait du blanc sur blanc dans sa tête. Il gardait sa main droite sur un petit livre usé où Victor Hugo avait écrit. Et le livre devait être très habitué à sentir cette main qui s'appuyait sur lui, comme c'est souvent avec les aveugles quand on les aide à traverser.
Depuis hier, tu me demandes ?
Hier ou aujourd'hui, monsieur Hamil, ça fait rien. C'est seulement du temps qui passe.
Eh bien, aujourd'hui, je suis resté toute la journée ici, mon petit Victor.
Je regardais le livre, mais j'avais rien à dire. Ça faisait des années qu'ils étaient ensemble. Un jour, j'écrirai un livre, moi aussi, monsieur Hamil, avec tout dedans. Qu'est-ce qu'il a fait de mieux, monsieur Victor Hugo ? Monsieur Hamil regardait très loin et souriait. Sa main bougeait sur le livre comme pour caresser. Les doigts tremblaient.
Ne me pose pas trop de questions, mon petit.
Mohamed.
Ne pose pas trop de questions. Je suis un peu fatigué aujourd'hui.
J'ai pris le livre et Monsieur Hamil l'a senti, il est devenu inquiet. J'ai regardé le titre et je lui ai rendu. J'ai mis sa main dessus. Voilà, Monsieur Hamil. Il est là. Vous pouvez le sentir. Je voyais ses doigts qui touchaient le livre.
Tu n'es pas un enfant comme les autres, mon petit Victor. Je l'ai toujours su.
Un jour, j'écrirai Les Misérables, moi aussi, Monsieur Hamil. Il y aura quelqu'un pour vous ramener chez vous tout à l'heure ?
Inch'Allah. Il y a sûrement quelqu'un, car je crois en Dieu, mon petit Victor.